VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 17 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
La Cour pénale internationale a suspendu la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est retourné au Maroc pour y poursuivre sa convalescence.
Réunion aujourd'hui des dirigeants africains à Addis Abeba. À l'ordre du jour, les élections en République démocratique du Congo.
Au Zimbabwe, les autorités ont intensifié la répression au troisième jour de la grève contre la hausse des prix des carburants.
Ici à Washington, la présidente de la Chambre des représentants demande au président Donald Trump de repousser son traditionnel discours sur l'état de l'Union.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
La Cour pénale internationale a suspendu hier soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement retentissant. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les juges avaient ordonné hier, plus tôt dans la journée, sa remise en liberté ainsi que celle de son bras droit, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, après leur acquittement d'accusations de crimes contre l'humanité. Mais selon la CPI, les deux hommes doivent maintenant rester sous la garde de la Cour jusqu'à ce que l'appel du parquet contre leur libération soit entendu. En attendant la décision de la chambre d'appel sur l'appel du procureur, Messieurs Gbagbo et Blé Goudé resteront sous la garde de la CPI, a indiqué un porte-parole de la Cour basée à La Haye. Dans un premier temps, la chambre de première instance avait pourtant constaté qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles allant à l'encontre de la mise en liberté de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé suite à leur acquittement mardi. En détention depuis plus de 7 ans, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupables. L'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo avait provoqué des scènes de liesse chez leurs partisans en Côte d'Ivoire, mais aussi un appel des autorités à garder de la compassion pour les victimes et susciter des critiques de la CPI qui subit un nouveau camouflet.
Au Burkina Faso, un Canadien, cadre d'une compagnie minière, a été enlevé mardi soir par des hommes armés sur le site de Kabangou, dans l'est du pays, en proie à des attaques djihadistes qui se multiplient. C'est ce qu'a dit hier à l'AFP le ministre burkinabé de la Sécurité, Clémence Ouadougo, confirmant des informations d'autres sources. Les agents qui travaillaient ont été assaillis par une dizaine d'hommes en armes qui ont regroupé le personnel. Ils ont fouillé le camp de base et enlevé certains matériels. Ils ont emmené avec eux 7 expatriés arrivés au Burkina le 10 janvier. A détaillé le ministre.
Dans une déclaration unanime hier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont dit de plus en plus impatients à l'égard des parties maliennes face au retard pris dans l'application de l'accord de paix de 2015. Malgré les casques bleus de la MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent au Mali et se sont même propagées vers le centre et le sud du pays, ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a repris sa convalescence au Maroc en lien avec un accident vasculaire cérébral après un aller-retour éclair mardi dans son pays pour la prestation de serment du nouveau gouvernement. C'est ce qu'on a appris mercredi dans son entourage. Son séjour dans son pays après 2 mois et demi d'absence aura duré moins de 24 heures. Le président Bongo a décollé mardi en fin de journée de Libreville, où il était arrivé lundi soir en provenance de Rabat, la capitale marocaine.
Des dirigeants africains se réunissent aujourd'hui au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour parler des élections en République démocratique du Congo. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cette réunion a été convoquée par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'organisation panafricaine, pour encore un mois. D'après Eba Kalondo, porte-parole de la Commission de l'Union africaine, cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les Africains pour aider les acteurs politiques et la population de la RDC à mener à terme le processus électoral. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé sa présence, mais on ignore quels autres dirigeants feront le déplacement. La commission électorale a proclamé l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin présidentiel avec 38,57% des voix contre 34,8% pour l'opposant Martin Fayulu qui a saisi la justice le samedi 11 janvier. M. Fayulu parle de coup d'état électoral et affirme avoir remporté le scrutin avec plus de 60% des suffrages. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour rendre son verdict. Si cette juridiction confirme les résultats proclamés par la CENI, la prestation de serment du nouveau président aura lieu le 22 janvier.
Au Zimbabwe, les autorités ont intensifié la répression au troisième jour de la grève contre la hausse des prix des carburants. Le président Emmerson Mnangagwa a appelé au calme. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Le pasteur Mawarire, figure de la fronde de 2016, a été interpellé à son domicile de Harare, placé en garde à vue. Le ministre de la Sécurité, Owen Nkumbe, a annoncé que plus de 600 personnes avaient déjà été arrêtées depuis le début des troubles. Une soixantaine d'entre elles ont comparu mercredi devant la justice à Harare pour violence publique, accusées d'avoir jeté des pierres sur la police ou bloqué des routes. Depuis lundi, de violentes manifestations ont lieu contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrétée samedi par son gouvernement. Harare et Bulawayo tournent au ralenti, privés de transport public et les magasins fermés. De nombreux commerces y ont été pillés, des bâtiments et des voitures incendiées. Les forces de sécurité ont sévèrement réprimé la contestation. Au moins 3 personnes ont été tuées selon la police, de nombreux autres blessés. En tournée à l'étranger, le président Emmerson Mnangagwa est sorti du silence pour condamner les violences et appeler ses compatriotes à la retenue.
Au Kenya, les forces de sécurité ont passé au peigne fin hier le complexe hôtelier de Nairobi où 5 islamistes chebabs somaliens ont semé la terreur mardi et mercredi, tuant 21 personnes. Dans la matinée, le président Uhuru Kenyatta est venu annoncer la fin de cette attaque à l'issue d'un siège de 20 heures. Les 5 assaillants sont tous morts. Selon le centre américain de surveillance des sites internet djihadistes Site, les Chebabs disent avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et ce, conformément aux instructions du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, de s'en prendre à des intérêts occidentaux et israéliens.
En Libye, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans de nouveaux combats entre milices rivales au sud de Tripoli, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en septembre. Le point avec Bagassi Koura.
Le ministère libyen de la Santé ne précise pas si des civils figurent parmi les victimes. Selon des témoins, des tirs intermittents ont été entendus hier soir au sud de Tripoli, la capitale, et des routes ont été fermées à la circulation. La mission de l'ONU en Libye a condamné fermement la récente mobilisation militaire, indiquant qu'elle surveillait la situation de près. La MINUL met en garde les parties contre toute violation de l'accord de cessez-le-feu conclu les 4 et 9 septembre 2018 qui compromettait la stabilité de la capitale et, plus important encore, mettrait en danger la vie des civils et de leurs biens. Entre fin août et début septembre, des combats entre les groupes armés ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Un accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'égide de l'ONU. Par ailleurs, l'armée dirigée par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé avoir lancé hier une opération militaire pour, selon elle, purger le sud des groupes terroristes et criminels autour de la ville de Sebha, à 651 km au sud de Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Syrie, 16 personnes, dont des soldats américains, ont été tuées hier dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique à Minbej. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis 2014 contre les forces américaines au sein de la coalition internationale en Syrie. John Linden.
Le porte-parole de cette coalition intervenant en Syrie contre le groupe État islamique a reconnu sur son compte Twitter la mort de militaires américains tués dans une explosion alors qu'ils menaient une patrouille de routine. Il n'a pas précisé leur nombre, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, a affirmé que 2 soldats américains ont péri dans l'attentat près d'un restaurant du centre de Minbej, dans le nord du pays. 14 autres personnes, 9 civils et 5 combattants d'une force arabo-kurde qui accompagnait la patrouille américaine sont également morts, selon l'OSDH, basé à Londres. Le groupe État islamique a revendiqué cet attentat, mené selon le groupe djihadiste par un certain Abou Yassine Al-Shami, qui a fait détonner sa veste d'explosif au milieu d'une patrouille. L'attaque de Minbej intervient après l'annonce, le mois dernier, par le président américain d'un retrait des troupes américaines de Syrie.
Ici à Washington, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a demandé au président Donald Trump de repousser son discours traditionnel sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier, à moins que ne prenne fin cette semaine la fermeture partielle du gouvernement fédéral qui dure depuis près de 4 semaines. M. Trump peut aussi présenter par écrit son discours selon Mme Pelosi. Elle a parlé de préoccupations liées à la sécurité, ce que semble contredire la secrétaire à la sécurité intérieure.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La société kenyane de production d'électricité obtient de la Banque mondiale 19 milliards de shillings sous forme de garantie risque, lui permettant d'attirer des capitaux à long terme pour ses projets de développement des énergies renouvelables. La société pourra aussi lever jusqu'à 30 milliards de shillings pour refinancer ses emprunts. Cela lui permettra d'apporter ainsi l'énergie nécessaire à des millions de ménages et d'entreprises. La compagnie aérienne nationale marocaine Royal Air Maroc envisage assurer la liaison entre Casablanca et Boston. Elle a adressé une demande au ministère américain des Transports. Le vol inaugural devrait intervenir dans la deuxième quinzaine de juin 2019. Boston deviendra ainsi la 4e destination de Royal Air Maroc aux États-Unis. Terminons avec les députés européens qui votent pour une baisse des droits de douane du territoire du Sahara occidental au même niveau que ceux du Maroc, afin de stimuler ses exportations vers l'Union européenne. Ils estiment que les tarifs préférentiels dont a bénéficié le Sahara occidental entre 2013 et 2006 avaient eu un impact positif sur la pêche, l'agriculture, l'investissement dans les infrastructures, la santé et l'éducation. L'accord doit désormais être avalisé par le Conseil de l'Union européenne pour entrer en vigueur.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Premier trophée pour Ronaldo.
Oui, Cristiano Ronaldo a ajouté un nouveau trophée à son impressionnante collection. Le premier sous le maillot de la Juventus, un but du Portugais a permis aux Turinois de remporter hier la Supercoupe d'Italie en battant l'AC Milan 1-0 à Jeddah en Arabie Saoudite. Il s'agit du premier trophée gagné par le Portugais en Italie, le premier aussi des 4 que vise ouvertement cette saison la Juventus, avec le championnat, la Coupe d'Italie et surtout la Ligue des Champions.
L'Atlético Madrid est vaincé par sa bête noire en Coupe du Roi.
Les Colchoneros ont concédé un nul spectaculaire de 3 buts partout à domicile contre Gérone hier en 8e de finale retour après le 1-1 à l'aller. L'Atlético Madrid a cru s'imposer sur un but d'Antoine Griezmann, entré en jeu après avoir délivré une passe décisive à Angel Correa. C'est Nicolas Kalinic qui avait ouvert le score pour les Colchoneros, mais Gérone n'a jamais lâché. Volée splendide du jeune Valérie Fernandez à la 37e, tête de l'avant-centre uruguayen Cristian Suani à la 59e, et alors que l'Atlético croyait s'imposer, égalisation improbable de l'Ivoirien Seydou Doumbia à la 88e. L'équipe de Diego Simeone est éjectée de la Coupe du Roi dès les 8e, alors qu'elle avait toujours atteint au moins les quarts ces 6 dernières saisons.
Un coup d'œil sur le marché des transferts.
Et revirement total pour Belanda, d'abord poussé vers la sortie par son club de Galatasaray pour des impératifs financiers. L'international marocain s'était résolu à partir et il s'était même mis d'accord avec le club saoudien de l'Etihad Jeddah. Mais l'entraîneur du club stambouliote, Fatih Terim, était contre ce départ. Conséquence, Galatasaray a finalement refusé l'offre saoudienne et a assuré que Younes Belanda ne quittera pas le club cet hiver.
C'est déjà fini en revanche entre Stéphane Biya et Toulouse.
Et oui, recruté par Toulouse l'été dernier après son expérience en Chine, l'international camerounais de 32 ans vient de résilier son contrat. Longtemps jugé trop juste physiquement, le polyvalent milieu défensif ou défenseur central n'aura disputé que 5 matchs avec les Violets. Mais le natif de Yaoundé pourrait ne pas tarder à rebondir puisque son ancien club de Trabzonspor lui aurait soumis une offre d'un an et demi. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Détroit et Orlando 120 à 115. Boston et Toronto 117 à 108, Brooklyn et Houston 145 à 142, Milwaukee et Memphis 111 à 101, San Antonio et Dallas 105 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions en première partie, la Cour pénale internationale, la CPI, a suspendu hier soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur au lendemain de son acquittement retentissant. La plupart des tentatives de la CPI de juger des personnalités politiques de haut rang, presque toutes en Afrique, se sont terminées par des échecs ou des acquittements. C'est notamment le cas pour l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en juin 2018 et maintenant l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Faut-il douter de l'efficacité de la CPI? Eric Manirakiza a joint à Ouagadougou l'analyste politique Ismaël Diallo.
L'interrogation a une réponse claire, c'est non pas son inefficacité, mais son échec double, échec cuisant. Et c'est à se demander franchement pourquoi cet instrument existe et s'il n'existait que pour les Africains, et même si c'était que pour les Africains, ceux dont beaucoup se défendent, ils prouvent néanmoins qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas capable de faire correctement son travail. Mais en réalité, ce n'est pas une question de compétence. Pire que cela.
Pour vous, est-ce du prêt-à-porter politico-judiciaire?
C'est un instrument politique. Contre ce que la France et l'Europe ne veulent pas, les Africains que la France et l'Europe ne veulent pas voir aux affaires et au bénéfice des suppôts de ces forces, y compris des complicités africaines. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec Kadhafi. Il y a un minimum de justice qu'il faut à tous les échelons. Dans ce cas particulier de Gbagbo, il n'y a pas eu de justice en vérité. Il y a eu une opération militaire dirigée par la France contre Laurent Gbagbo. Il y a eu un enlèvement par les troupes françaises de Laurent Gbagbo. Il y a eu un emprisonnement et il y a eu un enlèvement et un transplantement forcé de Laurent Gbagbo à la CPI. On peut entourer cela de toutes les facettes que l'on veut. La réalité est que c'était la politique du plus fort, c'est-à-dire la politique de la France avec Alassane Ouattara et d'autres.
Problème d'efficacité, mais peut-être une juridiction nécessaire.
Je ne sais pas si c'est une juridiction nécessaire. Nous, Africains, avons prouvé que si nous voulons, nous pouvons faire justice. Le cas est célébré. Les cas pendants ou qui ne sont pas encore à l'ordre du jour ne le sont pas simplement parce que nous n'avons pas encore décidé d'en faire quelque chose, comme le cas de Yahya Jammeh de la Gambie. Le jour où la CEDEAO décidera de traîner en justice, il sera traîné en justice, que son protecteur de la Guinée équatoriale le veuille ou non.
Est-ce que ces échecs ne relèvent pas de la faiblesse de l'accusation?
Je ne pense pas que la faute soit à la procureure elle seule, c'est vraiment tout le système.
Le fait que les juges peuvent dire le droit, ça montre que c'est quand même une juridiction indépendante.
Elle est peut-être indépendante pour les faibles, mais elle n'est pas pour les puissants. Il ne faut pas se faire d'illusion. Le monde de la puissance, c'est le monde de l'argent, c'est le monde d'influence. C'est un jeu d'échecs.
Joint à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'analyste politique Ismaël Diallo.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Laurent Gbagbo aux portes de la liberté. Après cette année de détention provisoire, Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Que veut dire cette décision de la CPI? Quelles peuvent être les conséquences sur l'échiquier politique ivoirien? Cet acquittement est-il un pas vers le pardon et la réconciliation en Côte d'Ivoire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Cameroun, la trentaine de voyageurs enlevés mardi sur un axe routier de la région anglophone du Sud-Ouest ont été libérés après avoir été dépouillés de leurs biens. Cet enlèvement s'est produit lorsque des cars ont été attaqués par des hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes. Pour parler de l'insécurité dans cette partie du Cameroun, John Lyndon s'est entretenu avec le docteur Raoul Soumo-Tayo, spécialiste des questions de sécurité et enseignant à l'université de Yaoundé 1.
La réponse essentiellement militaire et la judiciarisation de la gestion de cette crise par le gouvernement camerounais ne marche pas. C'est la preuve même de ce que l'outil militaire a atteint ses limites et que le discours martial de Paul Biya lors du discours de fin d'année ne marche pas. Donc aujourd'hui, plus que jamais, cet enlèvement vient prouver le fait qu'aujourd'hui, les insurgés anglophones ont la capacité d'entretenir l'insécurité, de contourner les mesures prises par les militaires camerounais pour sécuriser cet espace, malheureusement.
Que doit faire le gouvernement camerounais pour justement sécuriser cet espace?
Il faut dire que la matrice de la radicalisation des anglophones est politique. La gestion de cette crise doit se faire aux politiques. Le gouvernement a mis en place un comité de démobilisation et de déradicalisation. Malheureusement, les conditions, les préconditions n'ont pas été réunies. Je crois que la crise anglophone est le bout du tunnel des dysfonctionnements du vivre ensemble entre les communautés francophones et anglophones, car le résultat de l'incapacité des autorités à gérer une circonstance de l'histoire. Il est urgent de gérer politiquement cette crise. Il est également urgent que les militaires qui sont déployés sur le terrain cessent de se comporter comme une force d'occupation. Nous assistons malheureusement à une situation où les modalités de la contre-insurrection créent l'insurrection dans cette étape. Il faut utiliser une main de fer dans un gant de velours. Je crois qu'il est important que, déjà, je l'ai dit en processus politique, que l'outil militaire soit utilisé rationnellement, qu'un dialogue véritable soit ouvert entre les différents protagonistes de cette crise.
Alors, il me semble quand même qu'il y a eu des mesures, non, du côté du gouvernement, notamment la libération des personnes détenues récemment par le chef de l'État. C'est pas assez?
J'aurais utilisé le mot mesurette parce que je crois qu'il aurait été important que le chef de l'État alla au bout de la logique qu'il a inaugurée. Vous avez pratiquement plus d'un millier de prisonniers. Lorsqu'on libère à peine 200, je trouve qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un ensemble de conditions. Tout le monde au Cameroun, en tout cas, et tout analyste sérieux, sait où se trouve le problème. Le problème est celui d'une absence de dialogue. Le problème est celui d'un usage exclusif de l'outil militaire. Je crois qu'il faut sortir de cette logique-là pour entrer dans un cadre avec des vraies mesures et non prendre des mesures à moitié. Ce n'est qu'à ce prix. Bien entendu, on ne néglige pas le fait que les personnes soient libérées, mais je crois que le président aurait dû aller au bout de la logique qu'il a lui-même inaugurée.
Avec qui le gouvernement camerounais doit-il dialoguer du côté des séparatistes?
Bon, on devait déjà commencer par permettre aux instances prévues pour le dialogue national que le gouvernement accepte enfin que l'Assemblée nationale et le Sénat se saisissent de cette question, parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement criminalisé le débat public sur la question anglophone. Il faudrait qu'on laisse aux gens la possibilité de discuter.
Le professeur Raoul Soumo-Tayo de l'université de Yaoundé 1, joint à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi sont engagés dans un bras de fer sur la question du mur à la frontière mexicaine voulu par le président, alors que le vote du budget se fait attendre depuis 26 jours. Les Américains sont quasiment les seuls au monde à ne pas prévoir de 12e provisoire, dispositif autorisant un budget pour une période déterminée en cas de retard de vote afin d'éviter la fermeture des administrations. Pour une analyse sur le shutdown, Nathalie Barge a joint à Ouagadougou le politologue et juriste Siaka Koulibaly.
Le shutdown, effectivement, est arrivé un certain nombre de fois dans l'histoire politique américaine, mais ça a toujours été l'occasion d'éprouver les capacités de la classe politique américaine en termes de négociations, en termes de compromis, en termes d'arrangements au profit de la nation américaine. Ici, on a l'impression qu'une nouvelle formule de politique est en train de se dérouler, où le président, pour lui ici, le budget de son mur n'est pas adopté, fait de la résistance, alors que comparativement, Barack Obama avait eu le même problème avec l'Obamacare. Il avait bien accepté accepté des négociations avec le camp républicain et progressivement il avait pris des mesures complémentaires pour avoir l'essentiel de son Obamacare. Ici, le président Trump aurait pu également accepter les 2 milliards annuels et puis l'année prochaine ajouter un autre milliard ou un milliard et demi progressivement. Jusqu'à la fin de son mandat, il aurait peut-être eu son mur. Donc je vois ici une compréhension de la politique qui est quelque peu divergente de ce qu'on a connu de la capacité de la classe politique américaine.
Cependant, sur le principe lui-même, vous avez au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays dans le monde, le système du 12e provisoire, hein, qui est un budget pour une période déterminée, ça peut être un mois ou plus, en cas de retard du vote. Comment voyez-vous le fait que seulement les États-Unis pratiquent cette formule-là ?
Les États-Unis, étant partis sur principe d'une société libérale dès le début, ont dû éprouver plusieurs situations et ont trouvé les mécanismes qu'il fallait pour dépasser les crises qui survenaient au fur et à mesure. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mécanismes qui ne sont même pas très connus du grand public américain à plus forte raison des étrangers et qui existent pour compenser tel ou tel blocage du fonctionnement des institutions. Donc ce n'est pas du tout étonnant que les États-Unis disposent d'un tel mécanisme pour dépasser les situations de crise.
Cependant, on est dans une situation aussi où le président a le droit de veto. Est-ce que selon vous, le Congrès américain dispose d'autant de pouvoir que cela ?
Je crois que les pouvoirs du Congrès sont suffisamment importants, dans la mesure où il y a beaucoup de mécanismes, comme je l'ai dit, qui existent au profit du président des États-Unis. Il a les executive agreements qui lui permettent de faire passer même certains textes sans le vote du Congrès. Mais la pratique est qu'ils usent très rarement de ces mécanismes-là, parce qu'ils ne sont pas suffisamment démocratiques. Et le risque est qu'à chaque fois que la représentation nationale aura l'occasion, elle va remettre en cause des décisions adoptées par voie de passage en force. Ce qui fait que finalement, les présidents américains ont pris l'habitude de vraiment aller à la négociation lorsqu'il y avait des crises et des blocages qui survenaient.
Le politologue burkinabé Siaka Koulibaly.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universal dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Alors tout le monde va travailler dans la paix. On va s'agaciter.
On va décaler la frontière.
Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.